Okapi Service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous allons échanger à présent sur la procédure d'expropriation pour des raisons d'utilité publique. Comment cela doit se passer? Maître Eshimata Ngimbi, avocat d'affaires et assistant à la faculté des droits de l'université de Kinshasa, et notre invité, Maître Eshimata, bonjour.
Bonjour, monsieur Petrina Koukou, et bonjour à tous.
Bienvenue dans cette émission, Maître Eshimata. C'est Jody Daniel Kachama au micro. Nous aurons également comme invité ingénieur Michel Oyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP de la République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Polydor Basunga sur la mise en onde. Tati Mapoukou à la coordination, il assure la réalisation et la coordination de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bienvenue encore une fois dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons à présent de l'expropriation. Vous savez, le pouvoir public peut obliger un particulier ou une communauté à lui céder les parcelles dans le but de réaliser certaines tâches d'intérêt général comme l'aménagement ou l'élargissement d'une route, la réhabilitation de la voie ferrée, la construction d'un hôpital, l'érection d'un marché, etc. Alors, selon la loi, les personnes concernées par l'expropriation pour cause d'utilité publique ont droit à une indemnisation juste et calculée sur base de la valeur réelle de leurs biens. Cependant, les choses sur le terrain ne se passent pas toujours comme prescrit par la loi. Alors, quelle est la procédure à suivre pour exproprier des biens ou des maisons pour raison d'utilité publique? Maître Eric, Maître Eshimata Ngimbi est avocat d'affaires et assistant à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. La première question, Maître Eshimata, est de savoir, c'est comment la loi définit l'expropriation.
Alors, merci monsieur Tatimal beaucoup pour la parole et surtout pour l'opportunité pour échanger autour de cette question importante de notre gouvernance et une question déterminante pour la suite de travaux d'infrastructure. Alors, l'expropriation pour cause d'utilité publique est considérée comme une opération administrative par laquelle l'État oblige un particulier à lui céder la propriété d'un immeuble moyennant juste et équitable indemnité. Alors, de cette définition, très rapidement, il se dégage quatre éléments fondamentaux. Le tout premier élément, c'est que l'expropriation est une décision unilatérale de pouvoir public. Cette décision peut être à l'initiative de personnes publique ou à l'initiative d'une personne privée. Deuxième élément, c'est que l'expropriation pour cause d'utilité publique porte exclusivement sur la propriété d'un immeuble ou d'un droit immobilier. C'est-à-dire que l'expropriation peut porter sur le droit réel immobilier, les droits des créances, donc en dehors des espaces visés, l'État peut également exproprier les droits des créances ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance d'un immeuble, ou encore l'expropriation peut porter sur le droit de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales. Le troisième élément de cette définition, c'est que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut porter que ou ne peut avoir pour but que un motif d'intérêt général ou un but d'utilité publique, d'où la dénomination de cette opération. Et donc, cette utilité peut couvrir plusieurs réalités. Il peut s'agir de la sécurité, de la défense, de l'hygiène, de l'esthétique, du tourisme ou de voirie. C'est-à-dire les travaux à réaliser peuvent porter sur ces différentes facettes de ce qu'on peut comprendre par utilité publique. Le tout dernier élément de la définition, c'est que l'expropriation suppose une réparation préalable sous forme d'une indemnité juste et équitable. Et on a là trois éléments. Il s'agit d'une indemnité qui doit être préalable aux opérations envisagées. Et c'est d'ailleurs sur ça que porte l'article 34 de la Constitution qui garantit le droit à la propriété et qui conditionne l'atteinte à ces droits que lorsque l'on a préalablement indemnisé la personne. Deuxième élément, ou carrément deuxième volet du dernier élément, c'est que ça doit être une indemnité juste. Une indemnité qui doit être équivalente à la valeur vénale du bien ou du droit immobilier qu'on veut exproprier. Troisième élément du tout dernier élément qu'on est en train de présenter, c'est que ça doit être une indemnité équitable qui doit tenir compte des divers préjudices. C'est-à-dire que s'il y avait des habitations, s'il y avait des constructions réalisées, l'opération ou l'indemnité doit porter, doit tenir compte de ces éléments. À défaut de prendre en compte ces caractères préalables, justes et équitables, les personnes concernées peuvent aller en contentieux. Voilà en quelques lignes les quatre éléments qui définissent l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Bien, est-ce que maître, avez-vous des exemples des cas d'expropriation qui a déjà eu, par exemple, dans la ville de Kinshasa et comment cela s'est réglé, quoi?
Alors, la réalisation des expropriations au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons par exemple les cas de l'extension ou carrément de la réalisation de voiries sur le tronçon bypass. Mmh. Il y a eu quelques expropriations sur quelques mètres, mais préalablement aux opérations, il y a une décision du ministre ayant les affaires foncières qui annonce l'expropriation, détermine les biens concernés ou carrément les propriétaires concernés, ensuite détermine la valeur qui sera octroyée ou le frais en termes d'indemnité qui seront octroyés aux personnes, aux propriétaires concernés. Et c'est après cette décision publiée au journal officiel que les requérants peuvent soit introduire des recours, c'est ce qui était fait pour ces tronçons-là, introduire des recours pour revoir soit le montant de l'indemnité prévue ou soit pour solliciter une prorogation de période pour les déguerpissements pour permettre à ce que l'opération se passe en tenant compte de tous ces éléments. Alors, voilà, c'est vraiment ça ce qui s'est passé, mais aussi avec des opérations ratées qui se sont déroulées, qui, à ces jours, font l'objet des contentieux devant nos juridictions. Il y a même dans les passés une opération ratée sur base d'une ordonnance de l'ancien président Mobutu qui avait opéré une expropriation à l'endroit de, d'une confession religieuse, et c'est cette confession ayant trouvé que les motifs de cette expropriation et les montants alloués en termes d'indemnité n'étaient pas équivalents, et cette confession avait introduit une requête, et le juge avait donné gain de cause pendant cette période.
D'accord. Est-ce
voilà.
que
voilà. La... En bref, pour dire que la plupart des travaux, de construction ou d'infrastructure impliquent généralement, il y a toujours une dimension lorsqu'on on envisage de réaliser des travaux d'infrastructure publique, il y a toujours une dimension d'expropriation qui est mise en avant et qui est exécutée même avant le début de la réalisation des travaux.
Oui, maître, est-ce que les personnes à exproprier peuvent refuser?
C'est une décision des pouvoirs publics, une décision unilatérale. Les personnes ne peuvent pas refuser, mais plutôt elles peuvent remettre en cause la hauteur de l'indemnité, l'évaluation réalisée sur leur propriété. Voilà la marge de manœuvre dont disposent les propriétaires des biens ou de droits immobiliers concernés par une opération d'expropriation. Parce que l'opération, c'est une opération qui concerne, c'est une opération d'utilité publique. Donc il y a un élément d'intérêt général et dès lors, l'on ne peut pas, sur base d'un intérêt privé, faire obstacle à un intérêt public. Mais cependant, le droit à la propriété donne la possibilité, ou la Constitution donne la possibilité, et la loi qui organise l'expropriation pour cause d'utilité publique donne la possibilité aux personnes concernées, dans une période très limitée après la publication au journal officiel de la décision d'expropriation, de pouvoir remettre en cause les évaluations réalisées concernant leur propriété. Les montants, la hauteur. Voilà.
Par exemple, j'ai construit ma maison à un étage quelque part, une belle maison, et on m'apprend que voilà, il y a la route doit passer par là et que on va m'exproprier. D'abord, combien de temps on va me laisser pour m'organiser afin de quitter cet endroit, de trouver une autre habitation, aller avec la famille, etc. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet?
Voilà. À ce sujet, il s'agit du contenu. Donc, puisque je n'ai pas pu avancer pour expliquer la suite, parce que la décision d'expropriation, comme expliqué en avant, c'est une décision unilatérale que peut prendre soit les ministres des Affaires foncières, agissant par voie d'arrêté, soit le président de la République, agissant par voie d'ordonnance. Lorsque le ministre des Affaires foncières intervient, là, il s'agit de ce qu'on appelle dans la catégorisation d'une expropriation ordinaire ou par périmètre. Alors là, on individualise les biens et la zone, et dans la décision, on détermine les propriétaires ou les zones ciblées. Deuxièmement, on détermine la valeur vénale qui va constituer l'indemnité. Ensuite, on détermine également les travaux à réaliser, les buts d'intérêt général qui justifient la décision. Et par la suite, la décision doit également déterminer la période d'exécution des travaux d'utilité publique. La période d'exécution des travaux d'utilité publique. Question de permettre à ce qu'il y ait une clarté dans les cas de la gouvernance. Il faudrait qu'il y ait une transparence parce qu'après tout, ce sont les deniers publics qui seront utilisés pour réaliser les travaux. Il y a des droits des Congolais ou carrément des droits des personnes qui sont impliquées dans les cas de ces travaux. Donc il faudrait qu'il y ait une clarté. Que la loi de 77 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est très clair là-dessus. Et l'absence de ces éléments dans la décision qui annonce l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue un moyen d'annulation de la décision. Donc,
Étant donné qu'il s'agit d'un droit garanti par la Constitution, la décision qui intervient pour porter atteinte à ces droits doit se conformer à la loi parce que le droit et liberté fondamentaux sont garantis par la Constitution et mis en œuvre par la loi.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Il y a Justin Calabia qui nous appelle des Bounia. Bonjour Justin. Bonjour Justin des Bounia, quelle est votre question? Justin, vous êtes à Bounia, bonjour. Bien, Justin n'est plus en ligne. On va accueillir Alfred Kibiswa. Bonjour Alfred.
Bonjour, merci, monsieur le journaliste.
Vous êtes chargé de plaidoyer adjoint à la CONAPAC, alors qui CONAPAC qui est une structure qui s'occupe des agriculteurs. Alors nous parlons de l'expropriation, par exemple dans les domaines agricoles, qui est souvent une source de conflit. Normalement, selon la loi, comment cela devait se faire si on doit exproprier les gens par exemple au profit de certains projets agricoles?
Merci beaucoup pour la question. Je salue d'abord l'intervenant de tout à l'heure et je me rallie carrément à ses interventions. Je voulais tout simplement rappeler ici que la loi, elle est claire et je pense la bonne réponse, c'est que il faut tout simplement respecter les règles des jeux. Mon prédécesseur ou l'intervenant de tout à l'heure disait que la décision est unilatérale. Et donc, c'est l'État seul qui avait fixé les règles des jeux pour dire que non, quand je vais exproprier, voici ce que je dois faire. Voici comment je dois procéder. Et l'État s'est mis en place la loi de 1977 que venait d'évoquer le prédécesseur pour réglementer la matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et donc, là, en parlant des règles des jeux, l'État doit observer tout d'abord la procédure. Et là, sont les articles 5 à 7 qui parlent de la procédure que l'État doit mettre en place. Et mon prédécesseur venait de tout parler pratiquement. Il y a le principe qui est... J'étais au niveau des articles 12, 11 et 12, mais si je peux tout simplement répondre à la question, je ne vais plus revenir sur ce que mon prédécesseur avait déjà dit, parce qu'il a bien dit, le délai de dégrépissement, il est tout simplement fixé encore une fois de plus à dater de la mutation. Donc c'est supposé que tout est déjà fait, toute la procédure est déjà respectée, l'indemnisation est faite, et voilà, l'État procède maintenant à la mutation. Parce que l'expropriation, de par la définition, c'est tout simplement un mécanisme d'acquisition foncière, n'est-ce pas, qui consiste à déposséder le premier propriétaire ou le propriétaire X au profit de l'État. Alors, comme on a dépossédé à quelqu'un, on ne peut pas laisser les terrains ou la concession avec les mêmes titres. On doit procéder à la mutation de ces titres-là. Et dès qu'on procède à la mutation, alors la décision, l'État fixe un délai, donne un délai de déguerpissement à cette personne-là. C'est ce que dispose la loi à son article 6.
Bien, il y a aussi, parlons de l'expropriation dans le domaine minier, il y a des personnes, par exemple les exploitants artisanaux qui sont dépossédés de leurs terres, voilà, au profit des grands exploitants, tout ça c'est des choses qui arrivent et les gens crient au scandale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Là encore, c'est un autre problème, c'est une casse-tête. C'est toujours la loi minière résout cette question. Mais en cas de dépossession, certainement mon prédécesseur avait déjà parlé de la procédure. Au fait, quand l'État fixe les règles des jeux, il y a d'abord la procédure. Comment vous devez vous y prendre? Et on ne peut, c'est dire que les exploitants artisanaux auraient fait une grosse, un gros dos, que si on les avait approchés, on avait respecté la procédure, on les avait indemnisés même ou bien délocalisés, mais ils décident de rester sur le site. C'est à cette condition qu'on peut dire, voilà, les exploitants artisanaux ou bien la population n'écoutent pas. Mais généralement, c'est l'État qui fixe les règles du jeu, et c'est lui-même l'État qui refuse encore de respecter ou d'appliquer ses propres règles, dans la plupart des cas. Mmh. C'est pourquoi il y a résurgence des conflits. Il y a un nombre très important de conflits liés à l'expropriation. Pourquoi ? Parce que l'État ne respecte pas ce que lui-même a décidé.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Jeannot nous appelle depuis Kolwezi. Coucou à tous les auditeurs de Kolwezi, Adilala, Manika. Et il y a également Michael qui est en ligne depuis Goma, depuis la ville de Goma. Nous parlons de la procédure d'expropriation pour raisons d'utilité publique. Jeannot de Kolwezi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce thème du jour?
Bonjour Monsieur Jeudi, merci pour ce thème. Surtout pour le choix de ce genre de thème, merci beaucoup. Ça tombe à pic, hein, cette émission, parce que ici, à Kolwezi, nous connaissons les expropriations, parce qu'il y a des le terrain où il y a des minerais qui doivent être occupés par des Chinois. Moi, je pense que la forme, elle est bonne, mais le problème, c'est le fond. La loi est là, le texte sont là. Quand il faut construire quelque chose pour l'intérêt public, il faut que les gens puissent évacuer pour le bien de tout le monde. Mm. Mais comment est-ce que ça se passe? C'est vrai que cet événement, ça arrive dans tous les pays, même développés. Quand ils vont mettre, par exemple, une autoroute, je sais pas, ça arrive. Mais comment est-ce que nous faisons cela ici chez nous? Parce que le fond, il est toujours bien. Quand il s'agit de déguerpir le riche et aussi de déguerpir le pauvre, est-ce que ça se passe toujours de la même manière? C'est là que je salue le travail qu'a toujours le président de l'Assemblée provinciale ici, M. Kasséa.
Allô? Allô? Jeannot, vous êtes toujours là? Il y a un souci au niveau de la connexion. Voilà. Et il va certainement nous...
Allô?
Oui, allô, Jeannot, on vous a perdu tout à l'heure. Bon. Allez-y.
Oui, oui, il y a un problème de communication. Je disais... Est-ce que la manière de dire, hein, de le riche et le pauvre, et ça se passe toujours de la même manière ici chez nous? Parce que ici chez nous, on ne craint que celui qui a un pouvoir public, ministre, député.
Oui. Allô? Désolé, est-ce que le déguerpissement se passe de la même manière pour les riches, pour les pauvres, surtout dans les secteurs miniers? Michael, vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci beaucoup, très cher Radio Kapi, pour m'avoir associé à cette émission. Un thème tellement important, parce que nous avions été victimes. L'invité venait de les parler, et nous avions suivi, mais ce n'est pas ce qui se passe en RDC, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord poser la question avant de donner une petite historique. Est-il vrai la population concernée par la démarcation de la zone neutre entre un pays et un autre doit nécessairement avoir une indemnisation aussi longtemps elle a tous les documents nécessaires? Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes à Goma. Nous avions été victimes d'une démolition de nos maisons dans le quartier Mapende de Kaende, dans la commune de Goma, dans la commune de Karisimbi. Du côté rwandais, on avait indemnisé, mais par contre, du côté congolais, on n'avait pas indemnisé. Nous sommes plus de 2000 familles à la Belle Étoile jusqu'à aujourd'hui. Donc, la démolition a eu lieu en 2017.
En 2018. Et pourquoi on avait démoli vos maisons? Pourquoi on avait démoli vos maisons, Michael?
On avait démoli les maisons pour des raisons de démarcation de la zone neutre entre la RDC et le Rwanda.
Oui.
Alors, plus tard, on a vu une société commercial d'électricité Sokodé, qui est partenaire de Virunga Energy, y ériger ses poteaux électriques. Jusqu'aujourd'hui, ces poteaux servent la ville de Goma, passant par nos parcelles. On n'a rien réussi comme indemnisation. Il y a avoir le ministre des Affaires foncières, l'actuel qui est aujourd'hui. Il y a l'actuel aussi ministre du Commerce extérieur, qui est gouverné à l'époque. Aussi, il y a un député au niveau de l'Assemblée qui connaissent mieux ce dossier. Tous les députés, même le président de la République était ici à Goma, on lui avait informé quant à ça. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien réussi.
Voilà, plus de 2000 personnes ont vu leur maison être démolie et du côté Rwanda, les gens ont été indemnisés et de notre côté jusqu'à ces jours. Et pourquoi est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi l'indemnisation n'avait pas eu lieu?
Non, nous avions cherché de tous les moyens possibles pour voir, parce que nous connaissons l'article 33-34 de la Constitution, parle d'une indemnisation en cas de d'un pour des biens d'utilité publique. Alors, nous, on a constaté, lorsque vous arrivez à Goma, hein, à la grande barrière, on n'a pas démoli pendant que la zone est être proche du Rwanda. Mais par contre, lorsque vous montez un peu dans un quartier où le niveau socio-économique est un peu moins, ah non, là, on a démoli. Je voudrais savoir qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à ça. Parce qu'on trouve à suffisance que dans notre pays, il y a lorsqu'on veut dire des droits, il y a deux poids, deux mesures.
Oui. Merci, Michael, depuis Goma. Maître Eshima Tangimbi, vous avez la parole.
Allô? Voilà. Merci, monsieur Tati.
C'est Monsieur Jody. C'est Jody à l'antenne et non Tati.
Ok, Monsieur Jody, excusez.
D'accord, allez-y.
Monsieur Jody, merci pour la parole de nouveau accordée. Voilà, j'y relève trois éléments fondamentaux à travers les différentes interventions des auditeurs. Le tout premier élément, ce qu'il faut préciser que c'est vrai que la décision d'expropriation est une décision qui émane des pouvoirs publics, mais les bénéficiaires de la décision, ce n'est pas toujours le pouvoir public. C'est-à-dire que pour des raisons d'intérêt général, le droit immobilier peut être exproprié pour les comptes d'un particulier, mais dont le projet relève ou comporte un intérêt général. Deuxième élément, c'est d'ailleurs le cas qu'on rencontre généralement ici en RDC, c'est que l'expropriation peut se faire au bénéfice d'une personne publique. Ça, c'est un élément qu'il fallait préciser parce que l'on peut se retrouver au regard de la formulation de la loi. C'est possible d'avoir une expropriation pour cause d'utilité publique, mais au bénéfice d'un particulier qui réalise, par exemple, des infrastructures d'éducation dans des zones où les taux d'éducation est moins élevé. Deuxième élément, relevé, c'est que j'ai noté la superposition, la problématique de la superposition de droits et des titres. Parce que lorsque nous observons notre territoire, parce que le territoire de notre pays est riche en potentialité et riche en ressources, à la fois minières, hydrocarbures, foncières et forestières, ce qui peut donner lieu lors de l'octroi d'un titre d'occupation foncière, par exemple, que l'on soit en face d'un droit foncier superposé sur un droit minier. Alors là naît également une autre problématique de l'occupation spatiale. L'État congo ou l'espace congolais est caractérisé par le fait que notre occupation de notre espace physique, notre territoire est occupé sans pour autant qu'on ait planifié préalablement notre occupation. Ce qui donne lieu à l'octroi des titres sans pour autant qu'on sache réellement est-ce que c'est vraiment ici que nous devons réaliser des projets immobiliers et l'octroi des titres miniers sans pour autant prendre en compte le fait qu'il s'agit
d'un espace déjà occupé par un village ou soit par une communauté. Et là, là, c'est carrément le problème que nous rencontrons au Bazuélé, au Grand Katanga et au Nord Kivu un tout petit peu et au Sud Kivu, où l'on trouve des cas de superposition de titres entre le foncier et les miniers, entre les hydrocarbures. Récemment, il y a eu lors de l'appel d'offres sur le bloc pétrolier, nous avons connu un cas où un bloc pétrolier était superposé sur une tourbière qui constitue également un droit protégé dans le cadre de notre droit de l'environnement. Donc c'est carrément un problème global. De manière individuelle, une loi ne saura pas prendre en compte ou prendre en charge la problématique, mais c'est plutôt un problème ou une problématique de l'occupation spatiale, mieux un problème de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, si jamais on a un plan ou un schéma national d'aménagement du territoire qui oriente la façon dont on occupe les territoires, ça pourrait déjà, en amont, nous éviter les cas de superposition que nous sommes en train de connaître, parce que les codes miniers, c'est vrai que les codes miniers organisent une certaine prééminence de droit minier sur le droit foncier, mais cela n'est pas du tout correct, parce que on est des Bantous et nous nous identifions en tant que Bantous à travers notre territoire, à travers le sol.
Maître Ishimata.
Les cas.
Oui, maître, vous avez suivi la préoccupation de Michael de Goma qui a été exproprié parce que on voulait construire la zone neutre entre le Rwanda et la RDC. Du côté du Rwanda, les personnes expropriées ont été indemnisées, mais du côté de la RDC, jusqu'aujourd'hui, plus de 2000 familles ont vu leur maison être démolie et il n'y a jamais eu d'expropriation. Alors, il veut savoir quelle démarche, procédure il peut faire maintenant pour entrer dans ses droits.
Alors, la loi de 77 ouvre des brèches aux personnes expropriées pour d'abord la première de procédure prévue par cette loi, c'est de saisir l'autorité qui avait initié et organisé cette expropriation. À la suite de la saisine, si aucun retour positif n'est accordé, ils ont alors l'ouverture de saisir les juridictions de l'ordre administratif cette fois-ci, parce que depuis 2016, le Congo connaît une réforme, la République démocratique du Congo connaît une réforme dans son secteur de la justice administrative. Ils pourront alors saisir les juridictions de l'ordre administratif, soit la cour d'appel qui, à ce jour, les différentes cours d'appel font aujourd'hui état des juridictions administratives au niveau des provinces. Donc ils pourront saisir, moyennant l'étude alors du dossier, c'est-à-dire savoir au fond quelle était l'autorité qui avait pris l'acte, quels étaient les délais, qu'est-ce qui a été dit dans la décision, est-ce qu'il était vraiment question d'une expropriation ou carrément d'une action de démolition qui n'entre pas totalement dans le cadre de l'expropriation, parce qu'il existe des opérations de démolition qui ne constituent pas en soi l'expropriation, parce que lorsqu'on parle de l'expropriation, il y a toute cette procédure que j'ai indiquée au départ, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un arrêté qui annonce l'expropriation, qui annonce les travaux à réaliser, les biens indiqués, les indemnités prévues, et par la suite. Mais lorsqu'il y a simplement la démolition, là, il s'agit également d'une autre procédure. Donc, conseiller des lois, c'est juste donner ces éléments-là. Question d'entrer maintenant au fond pour voir de quoi il était question. Mais en droit, les personnes lésées par cette opération de démolition ont le droit d'initier des recours en fonction pour obtenir la réparation au niveau de nos cours et tribunaux.
Bien, Alfred Kibiswa, vous êtes de la CONAPAC, la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo. Votre réaction par rapport à cette démolition des parcelles, expropriation de Goma, mais les personnes n'ont pas toujours été indemnisées. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Mon prédécesseur venait de dire un élément important. Ce sont les droits. Il rappelle à notre frère Michael qu'il a des droits à faire prévaloir devant l'autorité qui avait pris la mesure, mais aussi devant les juridictions compétentes. En ce qui me concerne, par rapport à cette question, moi, je relève encore deux autres préoccupations. La première, monsieur Michael avait posé d'abord sa question avant d'en arriver à la préoccupation. Et la question était de savoir, concernant les personnes qui vivaient sur une zone neutre, une zone tampon. Mmh. Alors, je voulais tout simplement savoir, je me pose la question de savoir, bon, lui, il avait des documents produits ou fournis par quel pays ? Par le Rwanda ou bien par la République démocratique du Congo ?
Sûrement, ça, c'est la première question à se poser. Sûrement par la RDC, parce que lui, il est du côté congolais.
Ah, bon, c'est à lui de répondre. Espérons qu'il est sûrement du côté congolais. Et la deuxième question qu'on doit se poser, quel était l'acte pris ? Parce que le prédécesseur venait de poser de parler de ça. Quel est l'acte pris pour qu'il dise que non, c'était une expropriation ou carrément c'est lui qui avait dépassé les limites et que l'État aurait récupéré cette partie-là liée à sa à son dépassement des limites.
Et puis il a dit une chose.
Revenons dans le cadre d'expropriation.
Oui. Oui, il a ajouté un élément.
Dans le cadre d'expropriation.
Il avait ajouté un élément, Monsieur Alfred. Il dit quand vous allez pour ceux qui connaissent Goma du côté de la petite barrière, toutes les maisons qui étaient le long de cette zone neutre étaient détruites. Mais il y a d'autres maisons qui sont du côté de la grande barrière parce que ça appartient entre parenthèses à des personnes riches là-bas. On n'a pas touché, mais on a touché seulement du côté du petit peuple. Alors, on peut comprendre par là qu'il y a deux poids, deux mesures.
Tout à fait. Exactement, il y a deux poids, deux mesures dans ce contexte. Et donc, s'il nous dit que l'acte est pris, c'était effectivement l'expropriation, et donc nous allons encore une fois de plus déplorer la manière dont l'État congolais ne respecte même pas les préalables par rapport aux règles des jeux que lui-même fixe. Parce que chaque jeu a ses règles et chaque règle a des préalables. Voilà, c'est la première chose que je déplore. La deuxième, c'est cette question de deux poids, deux mesures. C'est vrai que la Constitution dispose que nous sommes tous égaux devant la loi. Imagine que on se dit, bon, celui-ci a le pouvoir public, celui-là n'en a pas. Ce privilège-là n'est pas légal. C'est un privilège illégal qu'il devrait en principe dénoncer dans le cadre de leur collectif parce que je suppose qu'ils n'avaient pas été expropriés seuls. Ils doivent se constituer en collectif. Et c'est le collectif là qui doit poser maintenant les actes au nom des victimes qu'ils sont. Dès lors que l'État n'a pas démoli du côté des nantis, l'État a l'obligation alors de leur remettre son acte en cause et leur remettre dans leurs droits. Parce que mon prédécesseur, quand il disait encore, il parlait des mécanismes, les causes qui poussaient à l'expropriation, je supposais qu'il y avait un besoin quelconque que l'État avait exprimé pour lequel l'État avait pris la décision que forcément, la réalisation de ces projets, il faut exproprier. S'il faut exproprier 30 mètres carrés, mais que vous expropriez seulement 20 mètres et vous vous limitez là-bas, et non, c'est-à-dire le projet de l'État ne sera plus accompli. Là, c'est carrément une illégalité dans l'illégalité. Mmh. Ce sont des choses à dénoncer devant les cours et tribunaux. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec le prédécesseur. Je n'ai pas retenu le nom, maître.
Oui,
qui a orienté. Pardon.
Oui, maître Shimata. Oui,
qui les a à un maître Shima Tavala, qui les a orientés devant les juridictions d'ordre administratif en vue d'obtenir l'annulation de cet acte-là. Parce qu'en réalité, c'est un acte sans cause. Si le projet devait viser 50 maisons, mais qu'on aurait tout simplement démoli 30 maisons, là, ce n'est plus l'expropriation en bonne et due forme.
Bien.
Il y a illégalité, ça c'est un des deux. Il y a expropriation sans respecter la loi. C'est encore une expropriation, non expropriation. Il y a toujours illégalité et pour cette cause, je suis tout à fait convaincu qu'ils peuvent obtenir gain de cause.
Bien. Merci. Nous parlons de la procédure d'expropriation pour des raisons d'utilité publique. Jeannot de Colosi avait posé la question de savoir si les déguerpissements se passent de la même manière pour les riches et pour les pauvres où il y a deux poids, deux mesures. Et Jeannot revient de Colosi, il est de nouveau en ligne. Bonjour Jeannot, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Allô Jeannot, vous êtes de nouveau en ligne? Allô?
Oui, allô, monsieur Jody.
Oui, on vous écoute, Jeannot.
Oui, bon, nous sommes dans un pays où il y a problème de connexion. Je disais ceci, hein.
Oui.
C'est la forme, elle est bonne. Hein. Quand on veut moderniser une ville, c'est bien. Est-ce que le fond, c'est là qu'il y a le problème? La manière de guérir le riche et le pauvre, et ça se passe toujours de la même, c'est pareil, ou c'est, ça se passe de même. C'est ça la question. Je suis à Colosi, vous connaissez, c'est une ville minière où il y a des localisations qui se font. C'est là que je salue le travail, hein, le travail qu'a bas notre président de l'Assemblée, monsieur Kasia Chingambo, qui ne me connaît pas, que je connaîtrai peut-être un jour par hasard. Lui, il est la voix des sans voix. La voix des démunis, là, les incognitos de la société. Hein? Je me pose la question à l'invité. Est-ce qu'il faudrait toujours qu'il y ait des gens comme M. Kasséa ici ou là-bas pour parler au nom de démunis ou parce qu'il y a prestation de serment? Parce que je suppose que ceux qui exercent dans notre justice, ils prêtent le serment de dire la loi d'une manière exacte. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens, des hommes forts pour parler au nom de personnes, de sans voix, pour que les choses aillent de l'avant? Parce que s'il n'y a pas des gens comme le monsieur dont je viens d'indexer ici, rien ne va aller de l'avant. Et quand il s'agit des riches, là, ça passe comme du couteau dans du beurre. C'est facile, il y a l'argent qui sort, il y a l'indemnisation qui se fait normalement.
Oui.
Quand on est pauvre ici,
oui,
on est maudit et délaissé.
Merci Jeannot.
Il faut qu'il y ait toujours des hommes forts. C'est ça la question.
Voilà, merci. Pourquoi cette indemnisation à double vitesse? Merci d'avoir appelé de Colosi. On va accueillir à présent notre consoeur Élise Cavira qui revient avec les réactions des internautes. Bonjour et bonjour Élise.
Rebonjour Jody Daniel.
Alors qu'est-ce que les internautes disent?
À ce sujet, nous avons Guy Kambui Mbanza de Kananga qui dit « Le Congo souffre à cause des conseillers politiques et l'incompréhension de nos politiciens. Nous devons respecter nos lois. À mon avis, tout ce que nous entreprenons peut bien marcher sans problème. » Ismaël Mupoi depuis Lubumbashi ajoute « Qu'au point de vue national et constitutionnel, le sol et sous-sol appartiennent à l'État. C'est bien lui qui a élaboré des lois pour bien faire fonctionner son pays et tous ceux qui s'y trouvent. Si l'État lui-même ne sait pas respecter ses propres lois, que dire des autres? Dans la plupart des cas, les personnes à indemniser subissent des manœuvres qu'on ne peut pas expliquer et c'est là sous l'œil impuissant de l'État. C'est le cas de Bipemba Mbujimayi qui avait montré l'indifférence de l'État face à l'escroquerie subie par les particuliers. Pour Mboula Kouete Jean-Pierre de Ilebo, le vrai problème c'est l'homme congolais puisqu'il n'agit qu'après injonction politique. Nous allons terminer avec Tipaji Chichi qui nous écrit depuis Luanda en Angola. Il dit tout ceci est dû au manque d'autorité de l'État congolais. La corruption est devenue le maître loi en RDC. Mmh. Voilà, je dis cet échantillon des réactions des auditeurs sur la page Facebook de Okapi Service.
Merci à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook d'Okapi Service. Maître Eshimata, merci beaucoup Élise pour toutes ces réactions. Maître Eshimata Ngimbi, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes et aux auditeurs? Allô, maître.
Oui, allô, allô. Donc, j'ai dit que la question de l'expropriation est une question de gouvernance, une question de la reconstruction de notre pays. Et j'invite les internautes et les interlocuteurs, disons, les auditeurs qui nous suivent, qui sont concernés par ces genres d'opérations, et n'est pas rester passif lorsqu'il y a des telles opérations qui les concernent. Il faudrait que lorsqu'il y a des tels projets qui avancent, il faudrait déjà se constituer, s'organiser pour voir comment organiser et mener la défense de leurs droits. Parce que généralement, l'État représente toujours la puissance publique. Lorsqu'il faut défendre ses droits ou ses libertés devant l'État, lorsqu'il y a un groupe de personnes qui les font, c'est toujours bien de pouvoir les faire. Et donc, c'est une question de gouvernance et de reconstruction, mais cette question mérite l'attention de tous les acteurs, privés comme publics, et aussi c'est une question qui doit connaître une certaine réforme, parce que la loi, vous imaginez, la loi date de 77. Il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps, et que à ce jour, nous devons prendre en compte ces évolutions-là, de sorte qu'il y ait une réforme qui prenne en compte l'évolution de cette question qui est très pertinente et très importante pour nos communautés.
Bien, Jeannot de Colosi se pose la question de savoir, il a toujours l'impression qu'il y a une justice pour les riches et une autre pour les pauvres. Pourquoi deux poids, deux mesures, quand il faut déguerpir les gens, pour les petits peuples, voilà, vite dégager, et puis peut-être qu'il n'y aura pas d'indemnisation, mais pour les riches, voilà, ils sont traités différemment.
Disons pour ces constats, c'est un constat vrai, et ce n'est pas simplement un constat en ce qui concerne les opérations d'expropriation. C'est un constat que l'on peut faire dans plusieurs autres secteurs en ce qui concerne l'octroi ou l'acquisition des documents au niveau de nos administrations, en ce qui concerne la défense des intérêts devant les juridictions. Donc c'est un constat qui cadre avec l'état de notre gouvernance, la physionomie actuelle de notre état, de notre justice, de notre gouvernance. Donc c'est vraiment une question, c'est comme ça que je le relève, que c'est une question de gouvernance et que à ces jours nous invitons, nous conseillons aux populations ou aux propriétaires concernés par ces différentes opérations de toujours s'organiser pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire que une requête ou un recours en groupe est toujours regardé autrement que lorsqu'il s'agit d'un recours individuel tenant compte, ça je le souligne, de l'état de notre État, permettez cette tautologie qui faut quand même son pétant d'or. Donc, il faut voir dans quelle mesure se regrouper, s'organiser en association ou carrément en syndicat ou autre pour voir comment défendre les intérêts qui sont lésés. Voilà, monsieur, je dis les éléments des réponses que je peux avoir pour la préoccupation ou les constats faits par notre cher auditeur.
Bien, monsieur, voilà, on va suivre la réaction de monsieur Alfred Kibisoa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que vous avez entendu? Allô, Alfred Kibisoa.
Allô, monsieur Jody.
Oui, on vous écoute, allez-y.
Aux internautes comme à monsieur Jeannot, je vais dire la même chose. Et aujourd'hui, dans notre pays, tous nous déplorons la question de déviation d'éthique et de la morale dans la prestation des services publics. Voilà pourquoi nous avons les antivaleurs qui ont gangréné aujourd'hui la gouvernance pratiquement dans tous les secteurs. Mais parce que nous sommes dans notre secteur ici précis, des déguerpissements, nous sommes dans le secteur d'expropriation. nous allons rappeler aux uns et aux autres que la corruption, le trafic d'influence ainsi que l'impunité sont aussi les antivaleurs au même titre que les autres maux qui ont déjà gangréné le système de gouvernance. Voilà pourquoi vous avez des riches qui sont traités différemment des pauvres, parce que les riches ont le pouvoir de corruption à l'égard des agents publics de l'État. Les pouvoirs publics laissent passer cette corruption dans sans être punis. Voilà pourquoi vous avez aussi ces agents publics de l'État qui reviennent et qui reviennent sur les actes de corruption en répétition, parce qu'ils savent que non, ils sont toujours impunis. Et voilà, les politiques, comme notre collègue de Goma a cité quelques noms de personnalités qui connaissent le problème, et des autres qui ont même des biens là où il devrait intervenir la démolition, mais qui n'a pas eu lieu. Et le trafic d'influence, l'agent public se dit, bon, ça, c'est un homme politique, celui-ci, c'est un ministre, c'est un gouverneur. Il laisse passer en échange d'une faveur quelconque, là où la personne ou l'agent public ne devait pas avoir des droits, mais déjà, il a la couverture de cette personne influente qui devrait en principe infliger la peine ou la sanction administrative, mais cette personne-là ne va plus sanctionner tout simplement parce que la personne avait déjà bénéficié d'un autre service du genre. Et donc, on peut appuyer que les riches et les administratifs se soutiennent mutuellement en termes de comme des ristournes dans leurs bêtises. Voilà pourquoi notre collègue Jeannot va constater que réellement il y a cette réalité de deux poids deux mesures. Mais est-ce que tout le monde doit se comporter comme le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba? Oui, c'est pourquoi ils sont élus, pour représenter les populations respectives, pour, entre autres, défendre leurs intérêts. Dès lors que vos électeurs se trouvent dans une situation où ils ont tous les droits possibles, mais auxquels ils n'accèdent pas, et qu'ils amènent ces problèmes devant la table de vous qui êtes leur porte-parole, leur bouche autorisée, c'est à vous de relayer. Parce que je rappelle que ce sont les mêmes députés,
d'accord,
qui ont encore le pouvoir sur les supposés influents.
Merci beaucoup.
Les supposés tout-puissants politiques.
Merci Alfred Kibiswa, chargé des plaidoyers adjoint au sein de la CONAPAC, qui est la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo. Nous disons également merci à Maître Shima Tangimbi, avocat d'affaires et assistant à la Faculté des Droits de l'Université de Kinshasa. C'est par ici que nous allons clôturer cette émission. Excellente journée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.